Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements. Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes, de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Micro ouvert sur Marmite FM 88.4. Nous allons aujourd'hui parler du plateau de Saclay et des enjeux qui concernent ce territoire avec des projets dont vous avez certainement entendu parler. Le Grand Paris, le Campus Paris-Saclay, la ligne 18 du métro. Quelles conséquences ces projets vont-ils avoir sur le plateau de Saclay? L'agriculture, l'alimentation de proximité, l'environnement ou encore la disparition du sol, des sols. Tout autant de thématiques que nous allons aborder avec nos invités. Vincent Bailly, d'abord, bonjour.
Bonjour Noradine.
Vous êtes agriculteur à la ferme Villaroy, donc de Guyancourt. Laurent Sainte-Fargarneau, bonjour.
Oui, bonjour Noradine.
Donc vous êtes membre de l'association Terre de Liens, que l'on va présenter dans quelques instants. Et enfin, Philippe Tellier, bonjour.
Bonjour. Bonjour Noradine.
De l'association Ce qui pousse, entre autres, parce que vous avez plusieurs casquettes, Philippe.
Oui.
Alors, on va peut-être commencer d'abord par une présentation de nos intervenants du jour, hein, pour que les auditeurs, les auditrices puissent un peu voir qui vous êtes. On peut commencer avec vous, Vincent Bailly. Qui êtes-vous en quelques mots?
Alors, je suis agriculteur donc à la ferme de Villaroy, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la commune de Guyancourt.
Ouais.
Je suis installé donc sur l'exploitation familiale depuis 2016 et converti en agriculture biologique depuis donc 2017, soit un an après ma conversion. Cette exploitation, très brièvement, a un historique assez particulier, étant donné qu'elle a subi diverses vagues d'expropriation, mais à l'époque... de 50 ans en Yvelines, donc notamment avec la création du golf national, du technocentre Renault, par la même occasion l'agrandissement de l'aérodrome de Toussuy-le-Noble. Donc c'est une exploitation qui a fini par être très morcelée, car en compensation de la perte d'une partie des terres, donc environ 130 hectares sur 170 qu'elle comprenait initialement,
ce qui est
très important.
Très important.
Voilà. Nous avons pu récupérer une centaine d'hectares via la SAFER.
Qu'est-ce que c'est la SAFER?
La SAFER, c'est un organisme qui gère les terres, les ventes notamment de terres agricoles. Et sur la commune de Cernay-la-Ville, en vallée de Chevreuse, donc située à 18 km de Guyancourt.
Merci pour cette présentation. Laurent Sainte-Garneau, pardon.
Donc moi je représente le groupe local Plateau de Saclay de l'association Terre de Liens. Terre de Liens, c'est un mouvement... assez récent, qui a maintenant une vingtaine d'années, qui a dédié ses objectifs à la préservation des terres agricoles et au maintien de l'activité des exploitations, en non seulement acquérant des fermes qui pouvaient être en situation de difficulté, mais aussi en assurant la transition entre les anciens qui partent à la retraite et qui ont besoin de vendre leurs exploitations pour couvrir souvent une retraite qui est absolument ridicule, et de l'autre côté, des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'installer parce que le coût du bâti, le coût de la terre avec la spéculation a souvent pris une importance considérable. Aujourd'hui, Terre de Liens achète en moyenne, depuis 5 ans, montée en gamme, montée en puissance, 30 fermes par an, et rassemble 33 000 personnes sur toute la France, entre 100 et 150 millions déjà rassemblés. Il faut savoir que c'est pas des gros financeurs, hein, c'est de l'épargne solidaire. C'est-à-dire chacun peut soit faire un don à la fondation, soit acheter une part. La part, c'est 100 et quelques euros. Et quand c'est une part, c'est aussi de l'épargne solidaire récupérable. Hein, bon, pour beaucoup de citoyens, ça peut être une aide temporaire, en sachant qu'ils peuvent récupérer leur argent plus tard. Hein, et donc, voilà, on trouve tous les renseignements sur terredelien.org. Il faut reconnaître que le site est très bien fait.
Et très bien fait, très fourni avec beaucoup, beaucoup d'informations. Laurent Sainte-Fargarneau, excusez-moi, j'ai déjà écorché votre nom.
C'est pas grave, Laurent, hein, ça ira. Ça ira Laurent, très bien.
Merci. Philippe Tellier.
Oui,
Alors, j'appartiens au collectif Ski Pousse, Ski comme Saint-Quentin-en-Yvelines, évidemment. On a fait le constat en 2017 qu'il y avait plusieurs associations sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'occupaient à la fois d'agriculture de proximité, mais aussi d'alimentation, et qui ne se connaissaient pas forcément. On a voulu rassembler tout ce monde-là, et c'est à la suite d'un forum organisé par l'agglomération qu'on a créé ce collectif de 31 associations qui regroupe la plupart des AMAP, la plupart d'associations comme 50 ans en transition, Coigny en transition, etc., mais aussi des associations comme l'Assoce Régale de Guyancourt avec son épicerie participative, et puis d'autres associations moins connues comme Le Bonheur est dans le Pré de Magny-les-Hameaux. Et donc, avec ce collectif, on essaye de mutualiser nos expériences, mutualiser nos projets, et aussi d'interpeller et de participer à toute la vie de l'agglomération concernant l'agriculture ou l'alimentation ou ce qui s'en rapproche. Ainsi, on a pu participer à des projets comme le projet alimentaire territorial, le PAT, qui concerne plus que la plaine, si je puis dire, autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça va jusqu'à Versailles notamment. Mais on a aussi participé au PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ce qui fait qu'on aboutit là depuis quasiment un mois, grâce à ça, à la création d'un verger participatif sur Montigny et voisins de Bretonneux. On fait aussi des actions de formation avec Terre de Liens notamment, concernant la veille foncière, on pourra y revenir tout à l'heure peut-être, et on sensibilise aussi depuis récemment le public à travers des balades pédestres sur le plateau de Saclay, sur les problèmes que pose l'urbanisation et l'arrivée de la ligne 18 sur le plateau de Saclay. Donc face à cela, on a beaucoup de choses à dire, et faisant partie, comme beaucoup d'entre nous au sein de Ski Pousse, faisant partie des 350 000 clients qui vont chez les agriculteurs, qui font de la vente directe sur le plateau de Saclay, on a évidemment des choses à dire face à l'arrivée de cette ligne 18.
Merci pour cette présentation, Philippe. Alors, quand on parle du plateau de Saclay, là, on va faire vraiment les questions simples pour commencer, pour les auditeurs, les auditrices qui ne seraient pas du tout au courant de cette situation. Quand on parle du plateau de Saclay, on parle de quelle zone précise ? Voilà, de quoi parle-t-on précisément ? Ouais.
Alors, je vais commencer, puis mes collègues compléteront. Disons que c'est toute la zone se situe à l'est de Saint-Quentin-en-Yvelines, bloquée entre, on va dire, deux rivières qui se situent au sud, qui sont la Mérantaise et l'Yvette, et une rivière qui se situe au nord, qui est la Bièvre, hein, et qui va jusqu'à Massy, Gif-sur-Yvette, etc. Donc ce plateau-là, jusqu'à récemment, en tout cas jusqu'à 10-20 ans, était essentiellement consacré à l'agriculture. Et on verra tout à l'heure peut-être avec Laurent que les anciens ont préservé énormément cette zone-là. Notamment, on y reviendra, à cause de sols magnifiques, des sols agricoles magnifiques, très fertiles, sur lesquels on pourra revenir. Mais en gros, c'est ça, cette zone-là, et donc qui nous touche. On est à la porte du plateau de Saclay.
Alors peut-être justement rappeler également un petit historique de ce qui se passe actuellement sur cette zone et des principaux projets en cours ou déjà bien avancés. En gros, vous disiez qu'il y a 10-20 ans peut-être, si on remonte un peu plus loin, c'était uniquement, en tout cas principalement, bon, très peu d'habitations, ou en tout cas très peu de, pas beaucoup d'habitants sur cette zone du plateau de Saclay, et beaucoup de zones consacrées à l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années qui a chamboulé après tout l'équilibre de ce plateau ?
Alors je laisse Laurent et Vincent répondre, qui sont plus anciens que moi,
Vincent
sur la zone.
Vincent Baillé d'abord, et puis après Laurent Sainte-Fargan.
Alors moi je vais donner une partie, je n'ai pas forcément tous les chiffres précis en tête étant donné que je me suis installé il n'y a pas longtemps et que du coup au niveau des dates notamment, parce qu'en fait ça remonte à un certain temps finalement, je pense à il y a plus de 20 ans hein, largement, je pense que Laurent ne me contredira pas.
Même si vous êtes, même si vous êtes dans une exploitation familiale qui est sur le territoire depuis le 19e siècle.
Tout à fait, mais étant donné que je ne me suis installé qu'à 4 ans, avant j'étais en études et en formation scolaire, donc c'était forcément pas trop ma préoccupation, voilà. Néanmoins, globalement, voilà, il y a ce projet de ligne 18, et notamment le tronçon qui nous intéresse au niveau des exploitants agricoles entre Palaiseau jusqu'au CEA de Saclay et ensuite la liaison avec, avec Guyancourt notamment. Également le doublement de la route départementale 36 qui vient se superposer à ça. La création du campus
Paris-Saclay, ouais.
Voilà, Paris-Saclay sur la frange, disons, sud-sud-est du plateau. Donc tout ça forcément a des conséquences irréversibles sur l'agriculture, bien entendu, l'environnement également du plateau, oui, également. Je vais laisser la parole à Laurent peut-être pour compléter quelques petits éléments.
Oui, Terre de Liens est un acteur récent, mais en fait, moi personnellement, ça fait 40 ans que je suis militant associatif sur le coin, Vallée et Plateau. Et donc, effectivement, on a pris le temps de refaire des historiques. Maintenant, on y est astreint. Il faut voir que les surfaces agricoles, il y a 40 ans, c'était 4000 hectares. Hein, c'est aujourd'hui on est à 2330 et on voit la consommation. Il y a eu 1000 hectares de consommés entre 1980 et 2000, hein, et dont la ferme de Villaroy. Alors il faut voir que toutes ces logiques d'aménagement, c'était dans des notions de conception où les espaces ruraux sont considérés comme des espaces vides sur lesquels la ville s'étend. Ça a commencé en 68. En 68, les amis de la vallée de la Bièvre se sont créés contre un projet d'installation d'usine Citroën. Ils ont gagné et l'usine Citroën s'est installée à Aunay. Sous-bois, et aujourd'hui c'est une friche industrielle, hein. L'usine a été démontée, donc c'était, on voit, ça s'est poursuivi. Il y a eu des écoles qui sont arrivées dans les années 70, je vais résumer beaucoup, et puis il y avait déjà le CEA qui était venu ici parce que à cause de la radioactivité qui devenait dangereuse à Châtenay-Malabry, donc on a implanté
le CEA, c'est le centre d'études
D'énergie atomique.
D'énergie atomique, hein,
Y a eu Saint-Élabo qui a voulu s'installer à Saint-Aubin dans les années 90. Alors, disons que jusque-là, il y avait une sorte d'équilibre, puisqu'en 90, il y a un premier regroupement de communes, déjà sous l'égide du maire de Gif-sur-Yvette de l'époque. Aujourd'hui, c'est le nouveau maire de Gif continue dans la lignée. Et qui veut faire un pôle de recherche d'excellence, etc. On voit les prémices. À l'époque, on réunit 15 000 signatures de gens opposés à cela. Il y a une enquête publique, il y a 4 000 avis défavorables. Le commissaire enquêteur donne un avis défavorable et le projet s'amoindrit, le maire négocie, revoit les choses à la baisse. Et ça rebondit en 2005 avec une mission pré-OIN. Et là, il y a ensuite déjà 250-300 hectares déjà consommés, construits sur la frange sud. Il y en a encore une centaine qui vont continuer de l'être. Il y a les grandes écoles dont peut-être bon nombre d'entre vous ont entendu parler, soi-disant pour un projet de Silicon Valley à la française qui n'a rien à voir avec la Silicon Valley et qui est en fait une escroquerie parce que finalement on déplace les écoles en mutualisant les moyens, ce qui fait que l'espace, le nombre de mètres carrés par étudiant baisse. Et le nombre de mètres carrés par chercheur baisse, avec des aberrations comme le projet de déménagement de l'INRA, qui finalement est engagé, même si la vente de Grignon est un peu stoppée. C'est-à-dire que
pour l'instant.
Ouais, voilà, les chercheurs de l'INRA qui vont venir maintenant travailler sur le plateau, s'ils veulent continuer à travailler sur des terres agricoles, alors qu'ils avaient un historique de parcelles depuis plus de 100 ans, qui est d'une richesse incroyable, il faudra qu'ils retournent à plaisir. Enfin, on voit que ça n'a rien à voir avec la cohérence. Et puis, je vais donner un petit exemple. Par exemple, il y avait une unité de recherche sur le plateau qui avait 80 hectares, qui travaillait sur les semences et l'évolution des semences avec le climat, pas les OGM. Donc un travail extrêmement intéressant et pour le futur, et concret et pragmatique. Eh ben, cette UMR, elle avait 80 hectares, et dans le nouveau projet, on lui en donne plus que 27. Et la différence, elle sert à quoi? Elle sert à faire deux gigantesques terrains de sport pour tous les étudiants qu'on a ramenés. C'est une aberration, et c'est pas terminé. Et les dangers, donc on a lutté. On a fait des recours. Il faut savoir qu'il y a encore deux recours menés par les associations qui sont en instance de traitement par la justice. Un recours contre la déclaration d'utilité publique de la zone d'aménagement de Corbeville qui impacte très sévèrement la ferme de la Martinière d'Emmanuel Leroux. On a été rejeté dans le recours gracieux, on a été rejeté dans le recours contentieux, et aujourd'hui, on est en recours à la cour d'administrative d'appel, et on a de très bons espoirs parce qu'on a un biais juridique qui est lourd, sur lequel on s'appuie, un argument juridique, on a très bon espoir que ça aboutisse et que ça remette en cause la déclaration d'utilité publique. On a perdu des recours, mais on a encore un recours contre aussi la déclaration d'utilité publique de la ligne 18, dont parlait Vincent, et qui est un élément structurel impactant très fortement le territoire. On a perdu et on a été condamné dans un premier recours. C'était un double recours avec des associations et quatre communes de leur côté. Les communes aussi ont été condamnées, c'est rarissime, rarissime. Et pourtant, on a trouvé de nouveaux arguments avec notre avocat, car il y a une déclaration d'utilité publique modificative qui contient des erreurs et qui est récente. Et donc, nous avons à nouveau un recours contre en Conseil d'État, celui-là. Donc, vous voyez, on lâche pas les affaires. On s'est battu dans le passé et on continue. Il y aura encore beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai essayé de résumer très, très vite.
Oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en place. Vincent Bailly.
Oui, si je peux me permettre pour revenir sur un des points que Laurent a exprimé tout à l'heure, notamment concernant le déménagement de l'INRA, chercheurs et étudiants. Faut quand même préciser que les chercheurs et étudiants ne sont pas pour ce déménagement, bien entendu, et que l'INRA possède également des terres sur la commune de Guyancourt à la Minière, d'environ 200 hectares. Et qu'à l'époque, les chercheurs, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans maintenant, 98 il me semble, l'INRA avait déjà déménagé ses expérimentations dans une autre région, enfin dans d'autres sites on va dire. Ils ont arrêté ceux de la Minière craignant que ça n'altère les résultats, le fait d'être en zone périurbaine. Donc vous voyez un peu l'aberration où ça mène, voilà.
Philippe Tellier.
Oui, je rappelle que le but premier du cluster de Saclay, dans son volet scientifique, a été de favoriser la recherche de pointe en regroupant les établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche avec 280 laboratoires afin de figurer dans le top 20 des universités mondiales intensives en recherche.
C'est l'argument qui avait été donné, notamment pour le Grand Paris, de dire fallait forcément pouvoir concurrencer les grandes métropoles, voilà, Shanghai, les États-Unis, etc. Et voilà, c'est l'argument qui a été mis en avant.
On voit qu'à travers ça, l'agriculture est la grande sacrifiée partout, déjà au niveau de la recherche. Alors par contre, si on s'appelait CEA, oui, là, il y aurait pas de problème. Mais dès lors que vous vous appelez agriculture, on vous sacrifie. Déjà à l'hôtel de l'enseignement de la recherche et de l'enseignement, comme Laurent l'a dit, avec l'école de Grignon. Et on verra tout à l'heure avec les sols agricoles ce qu'il en est. Et je précise aussi que Laurent a évoqué l'enquête publique qui a notamment mobilisé une partie des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines en juillet dernier. Cette enquête publique, comme je viens de le dire, elle a été ouverte en juillet. Et vous savez qu'en juillet, c'est le moment où les agriculteurs moissonnent. Et donc, on aurait voulu mettre de côté les agriculteurs dans l'interpellation du public, qu'on n'aurait pas fait autrement. Hein. Et en plus, il y a eu un pas de temps, c'est-à-dire le temps pour répondre et consulter 4534 pages du rapport du Grand Paris, c'était le pas de temps minimum syndical, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que l'habitant de Saint-Quentin et l'agriculteur, en plein mois de juillet, ne puisse pas véritablement répondre à cette enquête publique.
Alors justement, Vincent Bailly, quelles sont les conséquences de tous ces projets, vous sur votre ferme notamment? Sur les fermes alentours. On laissera ensuite Laurentien Fargarneau compléter. Je le disais tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une exploitation familiale qui a déjà plus de 100 ans, exploitation qui a déjà souffert, vous l'avez également dit, depuis les années 70, avec l'éclosion des villes nouvelles, 50 ans en Yvelines en l'occurrence, qui a déjà subi de nombreuses expropriations, qui a dû peut-être revoir sa façon de travailler. Quelles sont les conséquences directes que va avoir par exemple la ligne 18 de métro pour vous ou pour vos collègues, si je peux les appeler comme ça?
Alors, les conséquences sont nombreuses. Déjà, pour faire un point, les agriculteurs sur le plateau, chaque exploitation est assez diversifiée. Il y a des modes de production différents, qu'ils soient biologiques ou conventionnels. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une entente et une entraide assez forte entre tous les agriculteurs du plateau. Mmh. Moi-même, je travaille avec Monsieur Vandamme Emmanuel, donc sur Villiers-le-Bacle, également en agriculture biologique et boulanger par ailleurs. Et finalement, le premier problème, bien entendu, ça va être à part effectivement la consommation d'espaces agricoles. Moi-même, je ne suis pas concerné, étant donné que je suis complètement sur la lisière ouest du plateau. Je ne suis pas concerné par des expropriations. Mais par tout le reste, par contre, fonctionnalité agricole, c'est-à-dire l'accessibilité aux parcelles, les problématiques que vont engendrer les travaux, aussi bien la ligne 18 que le doublement de la RD 36, on pourrait considérer que ça sera certainement infini, que ça pourrait durer une génération. Enfin, en fait, on n'a aucune donnée là-dessus, c'est extrêmement flou. Les équilibres aussi... On risque d'être exposé à des bruits permanents, des luminosités perturbées, donc qui va perturber la biodiversité, les insectes, les ravageurs aussi. On a actuellement de gros problèmes de ravageurs, notamment les corbeaux et les pigeons, qui font des dégâts considérables sur les cultures. Le fait est qu'il y a déjà un déséquilibre qui est présent et qui va être accentué par cette ligne 18. Donc, c'est vraiment des soucis. On suppose que ça va être ce genre de problème, mais si ça se trouve, ça sera bien pire que ça, et c'est assez inquiétant. Il faut préciser aussi que, je parlais d'entraide juste avant, ça va perturber donc toutes ces fonctionnalités, etc. Ça perturbe aussi l'équilibre qu'il y a dans l'entraide entre les exploitations agricoles. Il y a un équilibre économique. Ça peut être très compromettant, excusez-moi. Moi-même, m'étant installé il y a 5 ans maintenant, je dois payer rembourser mon installation, c'est assez coûteux. L'accès au matériel, Laurent en parlait tout à l'heure, l'accès au matériel, entre autres, au foncier, la reprise des bâtiments, etc., s'il y en a. C'est vraiment quelque chose de coûteux. Demain, j'aimerais me diversifier, car aujourd'hui je suis en grande culture, même si j'ai fait le pas de l'agriculture biologique, j'aimerais pousser encore davantage la diversification. Simplement, avec toutes ces conséquences, tous ces travaux à venir, ça risque de créer un déséquilibre important, et aujourd'hui je peux pas me risquer à aller dans quelque chose où finalement ça risque d'être très compromis, quoi. C'est assez déstabilisant, on n'a pas de recul, on a du mal à se projeter et voilà.
Une question économique que je poserai juste après. D'abord, Laurence Sainte-Fargarneau, sur les conséquences sur l'agriculture.
Oui, il y a la ligne 18. Alors, très rapidement, pourquoi on la conteste, c'est qu'elle a un niveau de rentabilité qui est estimé à 40 000 voyageurs heure. Or, en fait...
On explique, c'est-à-dire que pour que la ligne soit rentable, il faut qu'il y ait 40 000 personnes qui prennent chaque heure.
Aujourd'hui, le coût de cette ligne 18 globale, il est de 5 milliards, estimé, entre 4,5 et 5. Donc estimé. Et on sait que dans tous ces grands projets, on voit très souvent 30% de plus qui arrivent après, une fois les travaux terminés. Donc, rentabilité estimée à ça, des grands experts qui vont du cercle des transports, y compris le STIF quand il avait un petit peu plus de liberté de parole, aujourd'hui c'est un peu différent, Jean Covici, bien connu, disent tous que, en gros, cette ligne, elle va avoir 4000 passagers-heure, c'est-à-dire 10% de la rentabilité. Donc elle va être déficitaire. Une ligne de transport déficitaire, ça dure pas très très longtemps comme ça. Et aujourd'hui, c'est donc bien pour ça qu'elle est inquiétante, parce qu'elle risque du coup de susciter une sorte de renforcement de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, juste pour dire, donner un chiffre un petit peu large au niveau de l'ensemble de la France, les espaces artificialisés, ils ont augmenté de 72% en 40 ans. Et quand on dit les sols artificialisés, on nous dit oui, mais il faut construire du logement parce qu'on manque de logement. Il faut voir qu'il y a dans cette présentation quelque chose qui est très vicieux. D'abord, on cache que, à travers le Grand Paris, mais aussi à travers le schéma directeur régional de l'Île-de-France, il est prévu d'amener 2 millions de plus d'habitants sur l'Île-de-France, qui va siphonner des emplois et des richesses dans les autres régions. Donc, alors qu'on est déjà la région qui a le plus gros taux de mal-logement, on va faire venir encore plus de gens. Et donc, bien sûr, on aggrave les problèmes de logement. Et on dit qu'il faut construire pour le logement. En fait, c'est pas ça. On construit avec beaucoup d'infrastructures. Et il faut savoir que les sols artificialisés, aujourd'hui, ils sont pour 52% des routes et des parkings. Et on en a un exemple dramatique sur la ferme de Villaroy, où il y a le technocentre qui s'est installé, lieu de la voiture. Ouais. Ils pouvaient penser un petit peu à quelque chose de particulier. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait plus de 14 hectares de parking au sol, à l'air libre. Au lieu de les concentrer, au lieu de faire des étages, enfin c'est des constructeurs, ils savent faire un parking sur 3 niveaux. Eh ben, ils ont simplement, parce que ça leur coûtait beaucoup moins cher, décidé de consommer de la terre agricole en surface. On aurait pu économiser 14 hectares. Donc, on voit là déjà ça. Et si j'ajoute juste une petite chose, c'est pas terminé. On a quand même 2 dangers qui arrivent. Sur Guyancourt, on annonce sur le quartier de Guyancourt Est 2200 logements en plus et 150 000 mètres carrés de bureaux. Et sur Satory,
donc 300, du côté de Versailles.
Donc juste de l'autre côté de la côté, Bièvre, mais en fait, c'est le tronçon de la ligne 18. Hein. 315 000 mètres carrés de logements et 205 000 mètres carrés d'activités économiques, bureaux et autres. Hein. Donc, on voit que partout, on est dans cette logique de construction sans jamais se poser la question que Vincent, lui, amène très concrètement, la viabilité des exploitations agricoles, qui est toujours passée de côté.
D'ailleurs, un petit chiffre pour aller dans ce que vous disiez. En arrivant ce matin, j'écoutais la radio, hein, une fois n'est pas coutume, et j'ai entendu un chiffre sur le nombre de disparitions en 10 ans de fermes. Et le chiffre est de 100 000. J'espère avoir bien entendu, hein, mais j'ai entendu 100 000
en 10 ans. C'est exact. Il y a 100 fermes qui disparaissent par semaine. Et ce qui va aggraver les choses, c'est que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans 10 ans. Et d'ailleurs, sur le plateau, on en a l'exemple. La génération qui est juste après la mienne va partir à la retraite dans 10 ans. Les Vandamme, les Descourtils, il va y avoir des problèmes de transmission énormes. Et le risque, bien sûr, vous avez entendu ce matin le représentant de la Conf, je pense, que j'ai entendu aussi, qui disait bah, le risque, c'est que ce soit finalement des grosses puissances financières qui achètent ces fermes, à savoir des banques, etc., avec évidemment des soucis de rentabilité qui n'ont rien à voir avec la réalité agricole.
Avec une question également d'autonomie alimentaire qu'on pourra poser par rapport à ça. Philippe Tellier.
Oui, je précise que la loi climat, donc qui a été votée en 2021, a souhaité diviser par 2 l'artificialisation des sols par rapport à la précédente décennie. Donc là, actuellement, on fait tout le contraire. Tout ça pour dire que ben, on tient les promesses qui ont été faites il y a 10-20 ans du projet du Grand Paris. Alors que depuis, il y a eu quand même les différentes COP. La dernière a eu lieu cette année en Grande-Bretagne. Il y a eu l'IPBES sur la biodiversité qui dit tout le contraire. Et on est en train de marcher sur la tête, d'artificialiser à mort. Pourquoi ? Parce que la terre est devenue un objet spéculatif, complètement. C'est-à-dire que c'est l'agriculture, on n'en parle même pas. D'ailleurs, c'était même pas cité dans le sommaire du registre de l'enquête publique déposée par le Grand Paris. Le bilan carbone, il est même pas mentionné dans le sommaire. Enfin, pour vous dire jusqu'où ça va, quoi. Jusqu'où ça va, hein. Donc voilà, et après on pourra parler peut-être tout à l'heure du problème de la disparition des sols, où j'en parle maintenant.
Alors voilà. Je vous coupe justement une seconde, Philippe Tellier. On va marquer une petite pause puisqu'on est déjà arrivé à presque 30 minutes d'émission. Vous écoutez bien sûr Micro Ouvert sur Marmite FM 88.4. Nous parlons de tous les enjeux qui concernent le plateau de Saclay. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir toute l'année 2022 avec d'autres thématiques que nous vous présenterons, auditrices, auditeurs de Marmite FM. Alors Philippe, c'est vous qui aviez la parole quand on a terminé cette première partie d'émission. Et j'en profite pour vous poser une question, comme ça vous pourrez enchaîner sur les deux interventions. Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui me frappe dans tout ce qui se passe au niveau du plateau de Saclay. C'est comme si on considérait les agriculteurs comme des acteurs non économiques en France. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, on parlait de la disparition de ces agriculteurs, Laurent nous disait tout à l'heure, confirmer le chiffre de 100 000 fermes qui ont disparu en 10 ans. Quand il y a une entreprise qui ferme en général, une usine ou quelque chose, là, il y a des reportages, il y a des mobilisations. Il y a la parole qui leur est donnée, les politiques qui se déplacent pour dire que c'est un scandale, que cette entreprise ferme alors qu'elle fait des bénéfices, alors qu'on entend très rarement, en tout cas j'ai très rarement entendu le même type d'argumentation sur l'agriculture. Philippe Tellier.
Oui, complètement. Alors là, je ne peux qu'aller dans votre sens. Moi, je suis né dans les années 50 où il y avait 6 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a 450, 480 000 suivant les sources. D'autre part, dans le projet du Grand Paris, ils ont peut-être prévu plein de choses. Là, en tout cas, en premier, ce qu'on appelle la VAN, valeur actualisée nette de leur rentabilité de projet, mais absolument pas la VAN des agriculteurs du plateau. J'ai demandé récemment à l'association Terricité de savoir s'ils pouvaient demander une étude de groupe économique au niveau de tous les agriculteurs du plateau de Saclay pour voir les incidences économiques à moyen terme sur les 7 à 10 ans de l'arrivée de la ligne 18 et des annexes. Parce que, en effet, pour moi, tel que l'a dit tout à l'heure Vincent Bailly, ce n'est pas un ou deux ou trois agriculteurs qui sont touchés par-ci, par-là, c'est l'ensemble des agriculteurs du plateau qui forment un réseau très serré. On a parlé d'entraide agricole, il y a des matériels qui sont en copropriété, il y a des chantiers qui se font collectivement, etc. Mais ça, le grand public ne le sait pas forcément. Et donc, en fait, si on met en cause deux ou trois fermes parce qu'elles sont amputées de leur terrain, eh ben c'est tout l'ensemble du système qui est remis en cause. Et ce système économique, comme vous l'avez dit, Nouradine, on n'a pas chiffré du tout les conséquences à la fois sur l'économie agricole en tant que telle, mais aussi sur l'emploi salarié, parce qu'il faut savoir que plus vous développez une agriculture de proximité, comme le maraîchage, comme l'arboriculture, plus vous êtes offreur de main-d'œuvre, plus vous employez du personnel. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est un effort qu'ont fait les agriculteurs du plateau, parce qu'aujourd'hui, ils ont 25% de leur surface agricole utile en bio, beaucoup plus que la moyenne nationale qui arrive à peine à 9,5%, et l'objectif était d'atteindre 15% au niveau de la France. Et donc, grâce à ce développement-là et à un réseau de proximité, ils ont fait l'effort maximal au-delà de ce qui était demandé pour assouvir, je dirais, la demande des clients, la demande des AMAP qui sont à leur porte. Et on est en train de sacrifier cette agriculture qui, entre parenthèses, a pu se développer grâce à des sols absolument formidables, ce qu'on appelle des luvisols. Ce sont des limons éoliens qui, il y a des millions d'années, ont été fabriqués grâce à l'érosion des glaciers, grâce au vent qui a dispersé les poussières des minéraux, des roches, et qui les ont accumulées sur 3 à 4 mètres de profondeur. Et c'est, il faut savoir que dans les sols, il y a trois grosses classes granulométriques qui composent le sol, les argiles, les limons et les sables. On sait tous que le sable, ça va tant qu'il pleut, mais en période de sécheresse, ce n'est pas terrible pour les rendements. On sait aussi que les argiles, quand il pleut, ben c'est très difficile à travailler. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir labourer ou intervenir dans les champs. Le limon se situe juste au milieu en termes de taille granulométrique. C'est donc un cadeau du ciel. Et en plus, sur le plateau de Saclay, ces limons éoliens se trouvent sur une couche sous-jacente d'argile à meulière. Cette argile qui retient l'eau quand les pluies arrivent, et ce qui fait qu'elle restitue l'eau quand on a une période de sécheresse, et ce qui fait qu'on a connu des périodes estivales où partout ailleurs, les gens, les agriculteurs, irriguaient leur maïs, sauf sur le plateau de Saclay. Et donc, c'est un jardin de cocagne que nous envie l'Europe, que nous envie le monde entier, qu'on est en train de sacrifier de façon irréversible sous le béton du Grand Paris. Voilà.
Mais j'ai envie également de continuer sur ce que vous venez de dire. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'agir contre cela, puisque la ligne 18, les travaux sont engagés, si je peux m'exprimer ainsi. Le Grand Paris et l'université, le cluster, s'est engagé. Il y a des gens qui travaillent déjà. Il y a les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire que ce que les politiques globalement vont nous dire, c'est que, écoutez, monsieur Nouradine Anne, vous êtes bien gentil, mais maintenant qu'on a toutes ces personnes, que c'est lancé, il faut faire des logements, il faut faire des routes pour faire accéder ces personnes du coup à ces endroits, il faut des lieux pour qu'ils puissent manger peut-être, pour qu'ils puissent se divertir, pour qu'ils puissent dormir pour certains en construisant des hôtels ou autre. On a l'impression, en vous entendant, que le processus est irréversible et qu'une fois, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on a construit sur des terres fertiles, comme vient de nous l'expliquer à l'instant Philippe, les plus fertiles certainement du coin, qu'est-ce qui reste à faire ?
Alors, je vais commencer puis d'abord, je laisserai Philippe, mes collègues continuer. Déjà, il faut savoir que 70% des habitants sont opposés à la ligne 18. C'est ce qui était constaté avant l'enquête publique qui a démarré en juillet. Donc ça, on n'en tient pas compte, bien sûr. D'autre part, il faut savoir que nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur la construction de la ligne 18, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions pour assurer, je dirais, les difficultés de transport que peuvent connaître les Franciliens. Mais je laisserai Laurent, peut-être, ou Vincent approfondir cette question. En tout cas, il y a des solutions. Le pire, c'est qu'il y a plein d'alternatives pour résoudre le problème qui est sous-jacent.
Alors justement, vous me facilitez la transition, Philippe, pour Laurent Ancien-Fargano, puisque j'allais demander effectivement il faut quand même du transport, il faut quand même permettre à ces personnes de se promener et puis d'aller à leur travail, de rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à ceux qui pourraient vous dire, bon, vous êtes contre la ligne 18, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous proposez comme alternative ?
Alors, d'abord, l'artificialisation sur le plateau de Saclay, elle n'est pas terminée. Donc, on se bat pour que ce qui n'est pas construit ne le soit pas. Ce sont les recours dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la zone de Corbeville. Bon, qui est entre autres destinée principalement à des logements et à un hôpital. Alors, on pourrait dire, ouais, super, un hôpital. En fait, c'est un hôpital qui est conçu pour permettre la suppression de 3 hôpitaux de proximité dans les villes de l'Essonne, je passe très vite, hein, et qui n'est pas un simple transfert, puisqu'il y a une réduction de lits de manière importante, et aussi un changement d'activité. C'est évidemment de l'activité de pointe, avec suppression de certains services médecine, gastro-entérologie, etc., pour passer à des urgences de pointe. C'est-à-dire, ça ne répond pas aux besoins de santé de la population du Nord-Essonne. Et puis, est-ce que vous pensez que les habitants de Longjumeau vont venir jusque sur le plateau de Saclay pour les urgences, hein ? Alors que... bon, voilà. Donc, c'est pas terminé, et on peut peut-être encore gagner, on a des recours. Ensuite, il faut voir qu'il y a des transports alternatifs. Alors, je ne vais pas les aborder aujourd'hui parce que je crois que vous avez une session là-dessus.
Une future émission.
Renforcement du RERC, téléphérique, etc. Enfin, voilà. Et il y a des amis qui ont travaillé là-dessus, donc qui seront plus compétents que moi pour en parler. Surtout, il faut voir que il y a des flux de population, des flux qui sont domicile-travail. Et là aussi, dans cette même session, ils parleront, il y a une urbaniste qui a travaillé pour montrer que les flux domicile-travail en Essonne et en Yvelines ne correspondent pas du tout au tracé de la ligne 18. Alors, on peut dire, oui, il y a le tronçon Saint-Quentin, Satory, Versailles. Mais enfin, faire une ligne de métro pour desservir un quartier de la ville de Versailles, parce que c'est ça, c'est pour ça que monsieur le maire de Versailles défend vraiment la ligne 18, c'est parce que il a décidé de faire un nouveau quartier sur Satory depuis 10 ans, hein, en remplacement des industries d'armement, du quartier des gendarmes, etc. Et que du coup, ça lui coûte très cher de mettre en place un service de desserte, et que là, bah, c'est tout bénef, c'est l'État qui va faire, qui va investir pour faire une station de métro entre son quartier, etc. C'est comme si on disait qu'on allait ouvrir un héliport sur le plateau pour que les gens puissent aller en héliport à Issy-les-Moulineaux. Enfin, ça ne correspond pas ni à un besoin. En plus, ce transport va être très cher. On dit qu'il gagne deux minutes. Et on oublie complètement que la gare, elle va être à moins 35 mètres et que les gens, ils vont perdre le temps gagné dans le transport par les escalators pour remonter à la surface. Enfin, voilà. Donc, il faut voir qu'on n'est pas du tout anti-transport, hein, mais que ce type de transport n'est pas adapté. Et je voudrais ajouter quelque chose qui est quand même aussi un point très important. L'agriculture, et particulièrement l'agriculture bio, dont Manu Vandamme et Vincent Bailly sont les gros porteurs en termes de surface sur le plateau, puis il y a d'autres exploitations qui sont sur des plus petites surfaces, maraîchères ou aviculteurs, mais qui sont aussi dans ce cadre-là, a besoin d'une biodiversité active, vivante. Or, tout ça, ça contribue à couper le corridor, les deux corridors écologiques que le SDRIF conseillait de préserver, celui qui est entre Palaiseau et Igny, et l'autre, celui qui est justement entre le PNR, qui passe par la zone de Toussul-Noble et juste la ferme de Villaroy, pour aller vers la ferme domaniale, la forêt domaniale de Versailles. Donc ces corridors-là sont très importants. Et puis dernier élément, pour aller très très vite, mais qui est à lui tout seul un chapitre, c'est le problème de l'eau, du ruissellement, de la modification des drains. Il faut dire que ces parcelles agricoles, elles sont drainées avec des drains depuis 250 ans, hein, qui sont extrêmement efficaces. Il faudrait là faire un chapitre, je veux bien revenir pour ça, sur l'histoire des rigoles. Mais pour aller très très vite, donc il y a un drainage qui est très important et qui va être perturbé par ces constructions. Et également, il faut savoir que le SIAVB, le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de la Bière, a fait une étude en montrant qu'un litre d'eau qui tombe sur le plateau et qui descend par la route goudronnée, donc qui tombe sur des espaces artificialisés, il met en gros un quart d'heure pour être dans la vallée. Quand il tombe dans de la terre, il met trois jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe et qui est déjà arrivé et qu'on a constaté, c'est que plus on artificialise le plateau, plus on inonde les vallées. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé le PA aujourd'hui ? Eh ben, c'est que du coup, ils ont voulu modifier les débits pour qu'on crée des plus gros barrages dans les vallées. Le syndicat intercommunal s'y est opposé, il a tenu bon, personne n'y croyait, mais bravo à eux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont consommé encore plus de terres agricoles pour faire des bassins de rétention sur le plateau. Hein, voilà. Et ça, c'est pas terminé, parce que les dernières inondations dans la vallée de la Mirantaise, elles ont eu lieu il y a 3 ans. Il y a eu un coin à Gif où il y a eu des maisons sinistrées. Donc, et ça peut très bien se répéter. Il y a 5 ans ou 6 ans, c'était au-dessous de Villiers-le-Bâcle. Enfin, voilà. Hein, et il y a eu des millions d'euros qui ont été dépensés dans la vallée de la Bièvre, que je connais très bien, pour créer des bassins de rétention en plusieurs endroits, pour éviter les inondations des zones construites. Parce que maintenant, c'est très densifié dans les villages.
Voilà. Vincent Bailly, d'abord, et puis après Philippe Tellier.
Oui, donc moi, je voudrais effectivement appuyer ce qu'ont dit donc Laurent et Philippe. juste avant, effectivement. Donc, pour nous, les agriculteurs, le premier objectif, bien entendu, c'est d'essayer de garder les espaces restants, c'est clair. Après, il faut aussi souligner le fait, je souris, mais quand on fait nos formations agricoles, enfin, les études plus généralement, on n'est pas formé forcément à ce genre d'étape. C'est quand même une étape, enfin, moi je considère que c'est une étape à l'échelle d'une exploitation comme ce qu'on a subi il y a 45 ans. À l'époque, mes grands-parents, ils n'avaient pas été formés pour qu'on leur dise « Ah bah vous allez vous installer, mais il y a la moitié ou les trois quarts de votre exploitation qui vont disparaître. » Donc en fait, concrètement, il n'y a pas de... Nous-mêmes agriculteurs, notre métier est déjà très prenant, devient de plus en plus, disons, difficile dans un sens, car il y a de plus en plus de tâches administratives qui se rajoutent en dehors de l'activité de production. Mmh. Qui est conséquente. Moi-même, le choix du bio nécessite peut-être d'être plus rigoureux et globalement nécessite plus de travail, en tout cas me concernant. Si en plus on doit prendre effectivement du temps supplémentaire qui est indispensable de fait, mais moi-même j'ai du mal à tout concilier. J'ai du mal à tout concilier pour cette défense des terres restantes et pas que la défense de sa propre exploitation sur le plateau, je veux dire. Tous les agriculteurs sont d'une même voix. J'en profite pour ajouter également, on en a parlé très très brièvement, notamment via Philippe, je crois, de l'association Terre et Cité, qui est une association dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, notamment par M. Vandamme et M. Dupré, pardon, excusez-moi, oui. Voilà, tout à fait. Et cette association dont tous les agriculteurs du plateau font partie a vraiment un impact pour que tous les agriculteurs soient représentés, notamment dans ce genre de d'étapes importantes. Et ça nous aide beaucoup. Mais cela demande énormément de temps et c'est du temps qu'on ne peut pas passer sur nos exploitations. C'est des éléments qui se suivent et c'est très compliqué de tout concilier.
Philippe Tellier.
Sur la qualité des sols, hein, que quand on parle de biodiversité, parce que je sais que c'est souvent un sujet méconnu par la population tout venant.
La dernière fois qu'on en a parlé sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ça concernait notamment la construction du vélodrome.
Oui.
Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc,
j'en reviendrai pas là-dessus.
Ouais, mais... On reviendra pas dessus.
Bon, la biodiversité, c'est pas simplement, les petits lapins ou des oiseaux. Et c'est en fait tout un cycle, car la faune et la circulation de la flore aussi avec le vent contribue à un enrichissement du sol. On va pas faire un cours de physique des sols, mais ça contribue à un niveau de la micro-vie, hein, qui est invisible à l'œil nu, ou sauf peut-être à la limite quelques vers de terre que les gens connaissent. Mais toute la richesse bactérienne du sol, par exemple, elle est entretenue par la flore, par la faune, par la flore sauvage, par la faune sauvage, qui circulent, et quand on supprime des corridors écologiques, c'est pas qu'on empêche les chevreuils d'aller d'une forêt à une autre, ce qui serait pas fondamentalement dramatique, et puis on pourrait même dire que tant mieux si les sangliers vont pas ravager des cultures. C'est pas ça le problème, c'est qu'il y a toute une microfaune qui ne va plus circuler et qui ne va plus enrichir des sols. Et c'est justement décisif pour la qualité des sols dont ont besoin les agriculteurs bio. Hein, parlons, bon, les conventionnels, ils compensent avec des intrants, mais les agriculteurs bio, eux, c'est pour eux, c'est une conséquence importante. Et ça, c'est quelque chose qui se développe sur plutôt 10-20 ans, cet enrichissement des sols. Et donc, quand on atteint la biodiversité et la circulation des espèces, faune, flore, c'est quelque chose auquel on s'expose à long terme, l'appauvrissement des sols. Hein, plus tous les effets de ruissellement, parlons pas, on augmente le trafic voiture, on nous dit ça va dans des eaux, machin, oui, mais enfin, il y a des résidus de pétrole, etc., qui parfois sont pas bien filtrés, qui vont polluer des sols aux alentours, etc., quoi. Et donc, qui vont atteindre cette microbiodiversité.
Philippe Tellier.
Oui, j'enfonce le clou de ce que vient de dire Laurent, en rappelant, vous avez tous entendu ces chiffres-là, en rappelant qu'en 30 ans, l'Europe a perdu 75% de ses insectes volants, des insectes qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation de 80% des plantes sauvages et dans l'alimentation de 60% des espèces d'oiseaux. Hein. Et donc, l'aménagement, il n'a pas été envisagé, par exemple, des mesures d'évitement pour éviter, par exemple, qu'une zone boisée qui s'appelle le Trou Berger à Guyancourt, de 5 hectares et quelques, soit évitée d'être rasée à côté de la future gare de la ligne 18.
Si je peux me permettre, Philippe, il y a quelques exceptions. Il me semble que pour le golfe national, on a envisagé un enfouissement. Ou est-ce que je dis des bêtises ?
Tout à fait.
Voilà, donc alors, le golfe national est peut-être plus important que les agricultures, que les terres agricoles.
En effet, la tunnelisation de la ligne 18 qui au départ avait été envisagée avec les agriculteurs pour passer en souterrain sous le plateau a été abandonnée en mettant en avant qu'il y avait un surcoût, alors qu'en fait ce surcoût, il n'a rien à voir par rapport aux surcoûts qui ont été ensuite enregistrés pour contenter les demandes de certaines communes afin de faire une gare dans leur territoire. Et donc, là encore, on sacrifie l'agriculture. Par contre, quand on se trouve en face du golfe, là, par contre, on est tout à fait prêt à faire un tunnel. Hein. Et j'ajouterais que ce sera le seul métro au monde qui traversera des champs. Hein. Ce sera jusqu'à temps que, bien sûr, ce soit urbanisé derrière, parce qu'on voit bien que c'est le cheval de Troie d'une urbanisation pour la rendre rentable. Et dernier point, on parle de l'aménagement d'une gare à Guyancourt. Quand on va à Paris, moi, quand je prends le métro, j'arrive dans ce qu'on appelle des bouches de métro qui ont un faible impact au sol. Là, on envisage tout de suite des gares avec centres commerciaux, tout le tralala, et ce qui fait qu'on artificialise encore plus l'effet de la ligne de métro qui arrive. Au lieu de se contenter d'une simple bouche de métro, à chaque fois, on envisage des gares, ce qui aboutit justement au rasement de l'espace boisé classé du Trou Berger de 5 hectares et quelques de Guyancourt, dont le Grand Paris dit qu'elle va compenser, mais tenez-vous bien, dans un autre département que les Yvelines. Donc, qu'est-ce que vont les Guyancourtois vont être contents quand ils vont découvrir que pour compenser leur balade qu'ils faisaient dans ce bois, il va falloir qu'ils aillent dans le département d'à côté.
Laurent.
D'abord, il faut ce dont parle Philippe, ce déplacement, c'est un déplacement de gare. C'est une modification du trajet prévu. Initialement, elle était prévue dans une friche industrielle. Mmh. Et en fait, une fois de plus, pour augmenter la rentabilité, sous un argument de tracé plus opportun, etc., on va garder les friches pour construire et on va détruire un bois classé pour faire une gare, qui est effectivement une gare gigantesque, puisqu'il faut rappeler que la Société du Grand Paris, qui est le promoteur de toutes les lignes du Grand Paris Express, en fait détient un pouvoir de construction autour des gares. Donc c'est elle-même qui décide et elle en tire le profit après. Il faut voir quand même que derrière ça, juste j'ai rajouté un point, c'est quand même une histoire scandaleuse. C'est-à-dire on a été jusqu'à transférer au privé le droit de prélever l'impôt, puisque la SGP a le droit de prélever des taxes sur les bureaux et les logements. C'est incroyable. Normalement, c'est la puissance publique ou territoriale, mais ça n'est pas le privé. Et ben là, on a une société qui a le droit de prélever l'impôt, de prélever ses taxes, etc. Hein. Donc et à l'autre bout du plateau, il y a la même chose, c'est-à-dire un bois classé du côté de Palaiseau, et dedans, il y a des espèces protégées. Donc, s'il est transféré dans le 95 comme il est annoncé, est-ce qu'on pense que les petits oiseaux et le campagnol amphibie et les quelques renards qui sont dedans, ils vont aller dans le 95 Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un mépris total, comme le disait Philippe tout à l'heure, pour toute cette richesse et ce cycle de vie autour de la terre agricole. Hein. Puis enfin, on pourrait ajouter un mot, c'est que la terre agricole, elle sert d'abord à nourrir les habitants. Et justement, à quoi ça sert que les habitants aient des transports de luxe, en plus hors de prix, parce que la ligne 18, c'est pas le ticket de métro, hein, s'ils peuvent plus se nourrir. Hein.
Alors justement, pour me faciliter la transition, Laurent, puisque ma question suivante concerne justement l'autonomie alimentaire. puisque à moins de trouver des terres ou qu'il y a eu un transfert peut-être dans des zones de France que nous ne connaissons pas, techniquement, s'il y a moins de terres, s'il y a beaucoup d'expropriation, s'il y a de la bétonisation, est-ce qu'il y a moins de production ? Est-ce qu'il y a moins d'accès justement à une nourriture de proximité, à des circuits courts ? Voilà, quelles sont les conséquences à ce niveau-là ? Et puis au niveau de l'autonomie alimentaire également, dont nous parlions en préparant cette émission avec notamment avec Philippe Vincent Bailly.
Oui, alors l'autonomie alimentaire est véritablement mince. Alors au niveau de la région, je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais je crois que Philippe, voilà, c'est 3 jours seulement pour la région Île-de-France. Donc ce qui est bien entendu très
faible. Ce qui signifie en gros, c'est-à-dire que voilà. Si on arrête tous les moyens de production, tout brûle, hein, allez disons pour faire simple, on peut survivre 3 jours en tout cas.
Globalement, il y aura, oui exactement, alors survivre peut-être plus longtemps, mais il n'y aura que 3 jours
de stock.
De stock. Bon, ça s'explique bien entendu par le fait que le nombre d'habitants est bien entendu conséquent si on prend cette proportion-là et la surface agricole est effectivement très, très faible par rapport à d'autres régions et elle se réduit d'année en année encore plus. Donc c'est un véritable sujet. Après, ce qui se passe aussi, c'est que... Bon, il y a l'aspect mondialisation, finalement, si j'ose dire. Les gens, enfin les transformateurs, le monde de l'agroalimentaire peut se fournir, bien entendu, à l'étranger, dans des grands pays producteurs. Je pense aux États-Unis, je pense à la Russie, l'Europe de l'Est, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Pour des fois des coûts moindres, même très souvent. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas vraiment un sujet, quoi. Ils se disent, bon, l'agriculture de proximité, oui, d'accord, on arrivera à pallier à ce problème, quoi.
C'est terrible ce que vous nous dites. C'est qu'en gros, quand il y a des personnes qui veulent construire sur vos terrains et qui veulent vous exproprier, ils peuvent se dire cyniquement, bah, c'est pas grave si Vincent Bailly ne fait pas de pommes de terre ici, on ira les acheter.
Je pense que bon, voilà, les grands aménageurs qui font ces expropriations n'y pensent même pas.
Ah, voilà. Philippe Tellier.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on achète un kilo de viande, on ne paye pas du tout ce qu'on appelle les externalités négatives de cette production. Par exemple, si j'achète un kilo de viande argentine, qui a été produite sur des terres qui ont été déforestées pour y implanter un élevage de bovins, eh bien, je ne payerai pas le coût énorme de la disparition de la biodiversité et ni peut-être le transport à son vrai coût environnemental. Et c'est une viande qui peut arriver moins chère que la viande que produit mon producteur à côté de chez moi. J'ai déjà vu ça dans les restaurants parisiens. Donc, en fait, quelque part, le consommateur n'est pas informé du véritable coût de l'alimentation importée et n'est pas informé de suffisamment, en tout cas, de la qualité et du prix de revient auquel doit faire face l'agriculteur pour survivre et lui assurer cette alimentation à côté de chez lui. Et donc, il y a tout un système à transformer, toute une information à faire pour renverser la vapeur. Alors, ce mouvement a heureusement pris un peu plus d'essor depuis le Covid, mais il faudrait qu'il continue. Hein. Parce que sinon, comme le disait tout à l'heure Laurent, on risque d'arriver à une emprise du foncier agricole par des grosses sociétés financières qui vont faire appel à des entreprises de travaux agricoles et on verra disparaître très rapidement l'agriculture familiale qu'on connaît depuis des lustres en France, qui faisait le succès de l'agriculture française et qui faisait aussi la beauté des paysages, parce que c'est pareil. Quand on supprime quand on exploite des grands champs un peu à l'américaine, eh ben, le bocage français disparaîtra. Et si c'est ça qu'on veut, eh bien oui, on peut acheter au moins cher et on peut importer en effet des aliments de l'extérieur. Oui, tout à fait. Sauf que je ne sais pas ce qu'on laissera à nos enfants en termes de tradition culinaire, en termes de tradition alimentaire. Enfin voilà, c'est véritablement un enjeu sociétal qui se joue à notre porte.
Et la dernière question, ce sera à la fin de l'émission. C'est déjà la fin, on arrive à la fin. Et puis je vous donne la parole tout de suite, Laurent Saint-Fargarneau. C'est quel peut être le rôle des consommateurs ou peut-être des citoyens plus largement dans ces problématiques justement qui vont impacter ou qui ont déjà fortement impacté le plateau de Saclay, hein. Ce n'est pas uniquement le plateau de Saclay qui est concerné, on pourrait peut-être élargir, hein, à tout le pays, à toutes les situations qui sont connues. Voilà, quel peut être leur rôle? Je vous laisse conclure, Laurent Saint-Fargarneau.
Avant de conclure, on a laissé de côté un chapitre, mais qui est important pour la protection de l'agriculture, c'est le réchauffement climatique. Et pour la question de l'alimentation de proximité, je vais l'aborder sous cet angle-là. Réchauffement climatique, aujourd'hui, on est déjà dans une stratégie d'augmentation, non plus d'1,5 degré, mais de 2 degrés. Hein. On va pas y couper.
Avec une COP catastrophique.
On voit déjà les conséquences. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un réchauffement global, on ne veut pas se retrouver avec la Côte d'Azur tranquille à Paris. C'est l'augmentation de mécanismes qui peuvent être aussi bien pluvieux, par exemple, et rendre très difficile l'exploitation des champs. Je pense 2013, par exemple, où le printemps était très pluvieux. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les engins, ils peuvent pas rentrer dans les champs parce que les champs sont beaucoup trop... les engins s'enfoncent dans les champs. Période de sécheresse pendant l'été, le plateau est assez bien loti en termes de limon avec de l'argile au-dessous, donc il s'en sort pas trop mal, mais ailleurs, c'est pas du tout le cas. Et donc, le réchauffement climatique, il est commandé en premier par la question des transports. Et si on perd de l'alimentation de proximité, c'est pour aller vers cette question-là, si on perd de l'alimentation de proximité, et si on va chercher les pommes de terre en Tchéquie, qui a besoin aussi de vivre, et évidemment, et là-bas, l'agriculture doit vivre, mais au lieu de les acheter ici ou à 100 km de Paris, on va développer des gaz à effet de serre avec les transports qui, aujourd'hui, sont majoritairement camions, et ces gaz à effet de serre, ils vont participer au réchauffement climatique. Il y a plein d'autres facteurs, mais on voit directement sur ce plan-là que... l'apport du soja, par exemple, pour de l'élevage industriel de bovins, c'est quelque chose qui est important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire les consommateurs pour aller très vite vers ça? C'est acheter local, et sur le plateau de Saclay, pas très loin de la ville nouvelle, on a des endroits à Ménil-les-Hameaux où il y a des maraîchers qui font de la vente directe le samedi matin, la ferme de Robert et la ferme de la Closeraie, la clairière paysanne. Par exemple. Et puis, on peut réduire aussi sa consommation carnée, manger moins de viande. Il faut savoir que parmi l'alimentation, dans les domaines d'alimentation, c'est la viande rouge de bœuf qui est 10 fois plus... qui a un coût carbone 10 fois plus important, par exemple, que de la viande de volaille. Hein. Et si on réduit sa consommation carnée dans la semaine, si on mange pas de viande tous les jours, si on a une alimentation équilibrée, je peux rappeler que, par exemple, pois chiches, lentilles fournissent des protéines végétales, que des associations de plantes, de légumineuses permettent d'avoir des apports parfaitement nutritifs sans se déséquilibrer.
Possible.
Voilà, sans mettre en question la santé, ça peut pas aller plus loin. Donc, voilà, qu'est-ce que peuvent faire les consommateurs? D'abord, acheter local, acheter bio, c'est pas toujours plus cher. Hein. Pensez que dans les AMAP, grâce à un contrat de préachat, le producteur est garanti, ouais. Mais aussi parce que dans une AMAP, on est un consomme-acteur, donc on va aider le producteur. On l'aide à mettre en place une partie de la vente, de son stand. On tient la permanence le jour de la vente.
On peut même aller sur le terrain.
On peut aider, pour aider à la récolte chez Manu pour les patates, chez Charles pour l'abattage. Il y a des gens qui vont bénévolement l'aider le jour de l'abattage, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on l'aide à la distribution le jour de la vente. Et Charles Monville ne vend que en AMAP ses poulets et ses œufs. Donc voilà, une implication citoyenne qui peut être... au niveau de l'alimentation, dans le choix aussi de ce que l'on fait, l'implication citoyenne, hein, même pour ceux qui sont les plus actifs.
Un mot de conclusion également pour vous, Vincent Baillet, puis on conclura avec Philippe Tellier.
Oui, donc, comme l'a très bien dit Laurent, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Effectivement, il faut que... Si, éventuellement que les consommateurs, après, ce qui n'est pas évident compte tenu de la quantité d'informations dont on bénéficie aujourd'hui, mais arrivent à faire preuve des fois de discernement, et c'est là que c'est là qu'est la difficulté, à mon avis. Mais effectivement, que les consommateurs puissent consommer local et aider à faire vivre tous ces producteurs, comme vous l'avez très bien dit, c'est primordial, oui.
Philippe Tellier, pour finir.
Oui, alors moi je conclurai par un slogan. Je dirais oui pour la ZAN, Z-A-N, et non la VAN, V-A-N. ZAN, zéro artificialisation nette, demandée par de plus en plus d'institutions au niveau français. Et la VAN, valeur actualisée nette des sociétés autour du Grand Paris. Donc le consommateur peut choisir entre la ZAN et la VAN. Voilà, c'est un choix de société.
Ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission en deux parties. Donc Vincent Bailly, agriculteur de la ferme Villaroy de Guyancourt, Laurent Senfar-Garneau de l'association Terre de Liens et Philippe Tellier du collectif Ski Pousse. Bien sûr, je vous donne rendez-vous en 2022 pour toute une série d'émissions sur ces thématiques liées aux enjeux du plateau de Saclay et de tous les projets qui sont en train de voir le jour. Merci messieurs.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne. Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.